Cinema, cinema, shabadoudouda. Cinema, cinema.
Dynamo fait son cinéma.
Et bonjour, bonjour à tous et toutes. Vous écoutez la chronique cinéma du 22 avril 2026. Et autour de la table, beaucoup de monde aujourd'hui, un revenant, puisque ça faisait quelques semaines, voire mois, qu'on ne l'avait pas eu parmi nous. Lounès, bonjour.
Salut Hugo, salut tout le monde.
Salut Christophe.
Bonjour tout le monde.
Salut Céline.
Salut.
Et salut Jordan à la technique.
Salut.
Bon, quelques nouveautés cette semaine au blanc, mais beaucoup de reprises. Et bon, revenons d'abord à ce qui est passé la semaine dernière et repassera cette semaine, et notamment avec Mario, qui a été vu par plusieurs personnes ici, Mario Galaxy.
C'est vrai, c'est vrai. On l'a... Jordan et moi, on l'a vu lundi. Lundi, ouais. Et personnellement, j'ai vraiment bien aimé. C'était un moment cool, sans prise de tête. Moi, j'ai bien aimé, franchement.
Bah, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquaient comme quoi c'était pas terrible. Moi, j'ai pas trouvé ça nul, comme les gens disaient. Justement, le film est bien. Le film est plutôt pas mal. Il est sympa à regarder, quoi. C'est...
Puis il est rempli forcément de références. Mmh.
C'est du fan service, beaucoup, oui. Il y a beaucoup de références Nintendo. Ça, c'est normal encore.
Bah oui, mais.
Il y a un personnage, je sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Mais non, franchement, le film est pas mal. Les références comme ça, c'est vraiment pas mal. De...
Oui, les références. Bah, de toute façon, c'est un film sur un jeu vidéo sans référence, ce serait compliqué. Non, moi, j'ai vraiment bien aimé. Donc,
Et est-ce que ça plaira aux non-initiés de cet univers, tout de même?
Ah oui, je pense quand même. L'univers reste quand même. C'est plus des références. Ou quand on les dit, ah, c'est cool, ils ont pensé à ça, voilà, mais objectivement, l'histoire peut être comprise par n'importe qui. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir compris l'univers Mario pour. Enfin, il y a des choses qui, après, qui sont dans l'univers, qui sont une évidence, mais une fois qu'on les a comprises, il n'y a pas vraiment besoin. Donc, non, je pense qu'il y a vraiment, peu importe qu'on soit inconnu ou pas à l'univers de tous les Mario, je pense vraiment qu'on peut foncer. Sans aucun souci.
Bah, super. Excellent. Bah, ça rejoue cette semaine, Mario, au cinéma du Blanc. Donc profitez-en pour découvrir ce second opus.
Et j'ajoute qu'il n'y a plus qu'une seule séance 3D.
Ah oui.
C'est samedi, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais. Samedi à 18h30. Donc c'est la dernière séance 3D pour Mario. Ouais.
Une nouveauté cette semaine, un film anglais, oui pardon, Plus fort que moi, I swear, avec une évocation musicale avant tout. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
Please.
to go to war, well, you're already in one. 'Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion.
Et c'était Lily Allen, pardon, Fuck You, puisque de vulgarité, il en sera question dans ce film qui décrit la vie et puis la destinée de John Davidson, qui a réellement existé, écossais, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, et donc dont on découvre dans une première séquence sa consécration. Puisqu'il est en présence de la reine d'Angleterre et bon, il dit fuck the queen, je crois. Et donc c'est un événement qui a réellement eu lieu et donc qui avait un peu marqué les esprits. Et donc ensuite on retourne jusqu'à son adolescence où les premiers syndromes apparaissent et on découvre un peu comment est-ce que ce personnage s'adapte à cet handicap dans son quotidien de footballeur, d'écolier, et comment est-ce qu'il va vivre avec cet handicap. Donc le film est assez marqué et ancré dans une espèce de tradition du cinéma anglais qu'on va souvent associer donc au cinéma social d'une manière générale, et une fois encore, effectivement, c'est un cinéma qui va être marqué dans cette quotidienneté, dans cette chronique de vie de ce personnage. Alors, je ne sais pas si vous avez connaissance de cette figure, ou alors est-elle plutôt anglaise ? Avez-vous déjà entendu parler de John Davidson ?
Pas du tout.
Alors moi, j'en ai entendu parler du coup tout récemment avec la sortie du film. Mais c'est vrai que sinon, avant, je n'en avais pas du tout entendu parler, personnellement.
Oui, pas mieux.
Parce qu'il est présenté comme étant une espèce d'ambassadeur et il a un parcours qu'on décrit comme une espèce de consécration dans ce rôle. Et donc, je me questionnais justement sur ça. Parce que moi non plus, je ne connaissais pas cette personne avant l'apparition du film, mais peut-être qu'il a une popularité plutôt nationale que au-delà de nos frontières. En tout cas, voilà un film à découvrir pour à la fois découvrir ce syndrome et puis aussi découvrir la destinée plutôt singulière de ce Davidson.
Sachant qu'en plus, Gilles de la Tourette s'est beaucoup illustré avec souvent tout ce qui est gros mots, etc.
La vulgarité,
alors qu'en vrai, c'est pas tant... C'est beaucoup représenté médiatiquement parce que c'est assez parlant, voilà, c'est assez quelque chose qui marque, mais je crois que ça touche genre 10 à 20% de personnes qui sont touchées par Gilles de la Tourette. Donc c'est... Même moi, c'est grâce à ce film où j'ai beaucoup entendu parler de ce syndrome, de beaucoup de gens qui en parlaient et qui disaient, en vrai, c'est pas que ça, quoi. Dans l'imaginaire collectif, c'est beaucoup ça, alors qu'en vrai, pas tant. Donc... C'est aussi intéressant, je pense, là, pour le coup, ça sera accentué sur cette partie de Gilles de la Tourette. Mais pour le coup, c'est vraiment une minorité, mais surreprésentée dans les médias.
Ouais, puis c'est vrai que je n'ai pas de titre en tête, mais il me semble que le syndrome a déjà été utilisé plusieurs fois, mais plus dans des comédies, en fait, pour avoir des fois ce côté loufoque de la personne qui réagit... contre son gré.
Ouais.
Et de manière un peu comique dans l'environnement, on va dire. Comme tu disais tout à l'heure, le Fuck the Queen, effectivement.
Qui détonne avec.
J'ai pas la séquence, mais ça détonne complètement. Et je pense que ça ça doit quand même décrocher un petit sourire.
Oui.
Inévitablement.
Oui, le film, parfois, malgré lui ou pas, c'est difficile à savoir, hein, mais peu amusé, je pense, parce qu'effectivement, il y a des situations qui sont assez détonnantes, assez, qui marchent sur ce contraste entre sérieux, solennité, et puis irruption vulgaire d'un coup et trivialité d'une manière générale. Et ça peut prêter à sourire. Je pense que les frères Farrelly en avaient fait un sujet de comédie, puisqu'ils se sont souvent attaqués à ce genre de difformité. Je sais pas, ils avaient fait un film sur des siamois, des choses comme ça, des trucs assez spectaculaires. Donc c'est pas impossible qu'ils soient allés sur ce terrain, mais j'ai plus de titre non plus en tête. Et c'est pas la première fois que ça apparaît. Et comme tu disais, Célie, je pense que c'est de cette manière-là que ça apparaît à chaque fois. Le film a comme crédit que la personne existe réellement et que c'est des situations réelles, et donc ça atténue. Il me semble que c'est un syndrome qui est assez fréquent par ailleurs, donc qui viendrait d'un dysfonctionnement neurologique, je crois, plus que psychologique. Et donc il me semble que genre Billie Eilish est atteinte de ce syndrome notamment.
Je crois, ouais, je sais qu'en vrai, c'est assez. Je parlais d'un autre chanteur, j'ai plus son nom en tête, américain ou anglais, je sais plus, qui est touché. Et en vrai, c'est relativement. C'est pas rare en soi, c'est assez fréquent, je dirais pas non plus, mais voilà, c'est un syndrome qui est souvent tiré à la satire, alors qu'en vrai, ça touche beaucoup de gens. Il est présent, et qu'en vrai, pour les personnes, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître rigolo, alors qu'en vrai, ça l'est pas du tout pour la personne. Et je pense que c'est plus chiant qu'autre chose.
Une forme de souffrance, comme un Larsen.
Donc voilà. Je pense que ça peut être une bonne manière avec ce film de découvrir du coup ce syndrome. Alors forcément, on peut avoir des situations qui peuvent tirer au comique, comme partout. Mais voilà aussi, je pense, je l'ai pas vu, et je suis censée le voir ce soir. Mais se rendre compte un petit peu quand même de la difficulté de vivre avec ce syndrome sans que ce soit tiré à la satire. Et que ce soit lui le personnage principal, sans que on prenne sa personne comme bête de foire, entre gros guillemets.
Et complètement. Et puis j'insistais peut-être un peu trop sur ces aspects comiques dans le film. Le film a surtout une portée didactique. Y a vraiment ce truc-là de découvrir la chose via ce film-là, et puis d'en se faire une juste définition, disons. Voilà, donc c'est mon plus fort que moi, I Swear, de Kirk Jones, qui est et par ailleurs le réalisateur de Nanny McPhee. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Quelqu'un qui vient plutôt de la comédie.
Oui, ça me dit quelque chose. Je ne savais pas du tout que c'était le réalisateur.
Je ne savais pas non plus, tu vois.
C'est une espèce de nourrice plutôt qui tire vers le conte, disons.
Qui est un film très sympa, familial. Hein. Ouais. Un film familial très sympa, Nanny McPhee.
Ouais. Début des années 2000. Donc il réapparaît avec ça. On passe de Lily Allen à Lily Marlène, puisque c'est le cinéculte.
C'est bossé, hein.
C'est bossé, oui.
Je suis parti de moi, mais le niveau des chroniques ciné, c'est élevé, quoi. Waouh.
Oui, depuis qu'on s'est débarrassé des bruitages, je peux.
Ouais, enfin, j'ai le champ libre.
Je peux travailler tranquillement.
Bon. Depuis que je suis à la technique, c'est bon.
C'est ça.
Hein. Depuis que je suis arrivé à la radio, c'est. Ah non, mais ça a changé.
Des fois, il faut savoir laisser sa place. Hein.
Donc, le film de Fassbinder qui revient sur cette romance entre une chanteuse de cabaret et. Un résistant suisse juif durant la Seconde Guerre mondiale, et comment la collaboration se mêle de toute cette affaire, et puis le régime nazi surtout. Donc film qui reprend, comme il est coutume chez Fassbinder, des codes du cinéma à la fois allemand, puisque et c'est un fait assez rare en fait, et c'est une des rares traces qu'on a de à quoi pouvait ressembler le cinéma allemand durant la Seconde Guerre mondiale, et donc les productions nazies, mais aussi le mélodrame flamboyant qui serait plutôt tiré de la production américaine, avec les films de Douglas Sirk. On a une patine à l'image particulière, et puis aussi un ton, un registre qui fait penser à tout un tas de films américains et d'une tradition américaine. Donc voilà, un cinéma à la croisée des genres et bon, une belle découverte à faire et, bon, et une remémoration pour ceux qui l'ont déjà vu, puisque le film est, est assez connu comme bon, ça l'est de temps à autre pour Cinéculte. Donc voilà, à découvrir ce vendredi à 20h30 et toujours vendredi à 20h30 bon, un documentaire Allô la France de Floriane Devigne dont on écoute la bande-annonce.
Cette photo, c'est ma préférée. Celle que j'aime le plus, parmi les 1941 images de cabines téléphoniques que j'ai accumulées en 8 ans. La plupart sont des photos prises avec un téléphone portable, par des inconnus ou par moi. Avant, je n'avais jamais rien collectionné. Ni timbre, ni livre ancien, ni papillon rare. Je n'idolâtre rien, ni personne. Mais les cabines téléphoniques, c'est pas pareil. Moins il y en a, plus je les cherche. Je suis comme Hitchcock qui disait qu'il tournerait volontiers tout un film dans une cabine téléphonique. Car une scène de cabine téléphonique laisserait au cinéaste la même liberté que la page blanche pour un romancier. Dans ces campagnes, les gens semblent devenus aussi rares que les cabines. Les cafés ont fermé en même temps que les usines. Ici, il n'y a plus de cabine et le bureau de poste est à vendre.
Mais moi, je suis une grande nostalgique des cabines téléphoniques. Pour moi, c'est quelque chose de très romantique. Mmh.
Alors, Allô la France de Floriane Devigne, donc c'est un documentaire qui part d'un événement plutôt anodin et un peu innocent de prime abord, c'est la disparition des cabines téléphoniques depuis, disons, deux décennies maintenant. Donc à part de la, et je crois que c'est la première cabine qu'on voit, en tout cas une des premières de la dernière cabine téléphonique à Paris, qui apparaît dans un film de Jacques Rivette, bon, qui est situé sur une petite île et donc qui est assez pénible à retirer. C'est pour ça qu'elle est toujours sur place. Et ensuite, elle essaye de chasser les cabines qui restent en parcourant la France et donc doit se rendre dans des zones isolées pour parvenir à retrouver ces ultimes cabines en état de marche. Et donc, à partir de ce projet anodin de chasser les cabines téléphoniques et de collectionner les cabines, elle a une réflexion qui va assez loin, puisque la réflexion va jusqu'à la ville de Leblanc, qui part de cette observation vis-à-vis des services publics et de leur disparition, de leur mutation, et notamment le rôle que les cabines téléphoniques avaient là-dedans. Et donc on parle du blanc, puisque Devigne s'interroge sur la fermeture de la maternité qui avait eu lieu il y a quelques années. Et donc elle va partir comme ça sur d'autres institutions, et notamment la téléphonie, mais pas seulement... Et plutôt un état général du service public en France, avec cette approche assez poétique, disons, puisque c'est un élément. J'ai l'impression que c'est plus un attrait esthétique à la base et un attrait nostalgique de la cabine qui se mue en une préoccupation politique. Donc c'est assez passionnant à cet endroit.
Je me demandais, on se demandait à la pause d'où elle venait et oui. Quelle était sa posture à la base. Eh bien, elle vient de Suisse et de Lausanne, la réalisatrice.
Et oui, il me semble qu'elle a tourné deux premiers films en Suisse et en Belgique. Et donc
tout à fait.
C'est la première fois qu'elle est en France. Et c'était sur d'autres objets. Je ne l'ai pas cité parce que je ne me souviens plus de quel objet.
Sur ses précédents films.
Ouais, ouais.
Eh bien, il y avait un film sur une machine à laver qui était au rez-de-chaussée parce qu'au sous-sol, il y avait de la prostitution, et un autre film... aussi sur le sujet de la prostitution qu'elle avait touché. Donc là, c'est un, un sujet un peu différent que les autres, mais toujours très social.
Très social, ouais. Ouais, carrément. Et donc, le film sera projeté en présence de Judith Carter, qui apparaît dans le film, personnalité blancoise, s'il en est, et peut-être au téléphone, puisque la cohérence veut que ça soit au téléphone, donc présence de Floriane Devigne après la projection pour discuter de ce chouette projet. Est-ce que vous avez déjà utilisé une cabine téléphonique ici ?
Alors là...
Si je dis oui, je vais encore passer pour le vieux de la table.
J'en aurai au moins un.
Oui, merci. Voilà. Oui, alors je confirme. Oui. Oui, oui. C'était les cabines à pièces. Et la grosse innovation, c'était les cartes.
La carte, oui.
On pouvait acheter. Et quand j'étais gamin et que je partais en vacances, eh ben, les parents achetaient... tiens, on t'achète une carte avec... Alors, je ne sais plus, il y avait 10, 20, 30 unités dessus. Puis tu la consommais en téléphonant, oui.
Et cette apparition de la carte est évoquée dans le film, d'ailleurs. Ah, parce que elle n'est pas anodine et c'est assez passionnant.
Je crois qu'Hugo, on est vraiment la génération qui a vu la disparition, en fait. Parce que quand on était petit, il y en avait encore. J'ai le souvenir de jouer dans des cabines, de voir des gens dedans encore, et que ça a disparu aux alentours de mes 10-15 ans. Donc on a un peu cette entre-deux, quoi.
Oui, carrément. Parce que moi, j'ai souvenir, en fait, de où étaient passées les cabines dans ma ville d'enfance.
Il y a des villes qui les gardent pour les pour la nostalgie, et puis qui les
des boîtes à livres
qui les transforment en boîtes à livres ou autres.
Il y en a une à Angers.
C'est très sympa, je trouve. Ouais.
Bien sûr que non, j'en ai jamais utilisé. Je suis né avec un iPhone dans la main, donc non.
Pour toi, c'est Docteur Who et
ouais, c'est ça. Non, pas du tout ça. Enfin, je crois les seuls souvenirs que j'ai, c'est genre ce londonien qu'on voyait un peu de partout, mais plus pour l'esthétisme que c'était, fait, quoi. Mais sinon, en tant que tel, non, c'est vrai que je suis même pas sûr d'en avoir déjà vu en France, enfin, vers là où j'habitais. C'est pas du tout un truc.
C'est vrai que t'es né après l'apparition du premier iPhone.
Je crois, ouais.
Parce que je crois que c'est 2006-2007.
Je suis né avec l'iPhone dans la main, quoi.
J'en ai connu. Voilà. Je n'ai jamais utilisé.
Elle était sympa.
Ouais. C'est là où j'habitais avant, mais je me rappelle, c'était devant un bar et où mes parents allaient et tout. Et j'allais jouer, moi, dans la cabine, tout seul, à faire des semblants de téléphoner.
Mais oui, je vois bien.
Mais
c'est pareil.
Même moi, ça m'a... comme vous m'avez dit que ça avait disparu, pour moi, j'ai fait, bon, j'en ai connu, moi. Pourtant, je ne savais pas que ça avait vraiment disparu quand je suis né et tout, mais en fait, à mon avis, il a gardé juste pour l'esthétique et pas pour. Ou juste, il avait oublié de l'enlever.
Oui, il y a. Bon, enfin, celle qui reste, c'est parce que c'est pénible de les retirer parce que ça coûte des sous et que ça coûte moins cher. Le film raconte tout ça et c'est assez étonnant de tirer le fil de... moi j'adore ce genre de... Ce type d'approche documentaire, de partir de vraiment du très anodin et de tirer le fil à partir de là et de voir tout ce qu'on peut en dire et elle trouve des tas de choses à en dire. Voilà. Au blanc, il me semble qu'il y en avait Place Gasnier, figurez-vous.
Oh bah certainement, oui, c'est une place centrale. Donc,
j'en avais aperçu sur des cartes postales.
J'imagine, ouais.
Eh bien voilà, c'est Allô la France de Floriane Devigne, donc ce sera vendredi à 20h30.
Alors vendredi, je me permets, Hugo, c'est une grosse soirée pour nous quand même, c'est ce qu'on a mis en avant sur le programme. On a Allô la France et de l'autre côté, tu l'as pas cité tout à l'heure, c'est le Ciné Culte, deux animations qu'on assure au niveau du cinéma grâce à Marie et Annie. Donc le Ciné Book Club commence à 18h30 et la projection du film qui est là et Ciné Culte, c'est 20h30. Voilà.
Donc avec comme thématique la littérature allemande, me semble-t-il.
Oui, c'est axé littérature allemande et cinéma allemand. Voilà. Et c'est 6€ tarif unique sur le Ciné Book Club et le Ciné Culte. Ouais.
Parfait, donc ce sera vendredi à 20h30 avec des spectateurs tiraillés avec multiples propositions. J'en ai fini pour Le Blanc, passant à Buse, puisqu'à Busancé cette semaine, nous avons la comédie Mauvaise Pioche, donc comédie de Gérard Jugnot sur cette ersatz de l'affaire du pont de Ligonnès, donc avec une fausse accusation de ce personnage joué par Jugnot et les conséquences de cette accusation. Également Rue Malaga, de Mariam Touzani, dont on avait parlé ici il y a quelques se mène sur cette personne âgée qui est contrainte de quitter son logement et surtout son cadre de vie d'une manière générale pour retourner vivre en Espagne. Et donc la résistance de cette personne et tout ce qu'incombe ce choix contrarié. Ce qui compte donc avec Key Berlin et Lautin, donc comédie dramatique, un petit peu romantique entre ces deux personnages hauts en couleur, et également Belle de Mamoru Hosoda, donc dans le cadre du Cinéflex du mois d'avril. Donc à partir de 14h, on aura des jeux de société à la médiathèque de Buzancé. Donc c'est aujourd'hui, hein, donc à 14h des jeux de société, puis à 15h une projection du film d'Hosoda, donc réalisateur qui avait repris, je crois que le film est sorti en 2021-2022, le mythe de La Belle et la Bête, mais mis au goût du jour, disons, ou en tout cas réactualisé à l'époque du multimédia, puisque l'histoire se passe dans un métaverse, je cherchais le mot, dans un métaverse, donc dans ce métaverse qui reprend les codes d'Internet de début des années 2010, entre 2010 et 2020, disons, donc avec les influenceurs, le placement de produits et la popularité exorbitante de certaines personnalités sur Internet, et le contraste avec leur popularité dans la vraie vie. Donc c'est passionnant à cet endroit-là, et donc en lien direct avec notre thématique du jeu, puisqu'il sera question de jeu à la fois avant et pendant la séance. À Argenton, cette semaine, on aura L'Enfant du désert, donc de Gilles de Maistre, qui a comme coutume d'associer un animal et un enfant, et donc cette fois-ci c'est un enfant dans un désert, en présence de Kev Adams qui nous aura fait ses plus belles œuvres dans ce décor, et donc retrouve les décors désertiques. C'est à partir de 6 ans, et donc ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Sun, et qui dont on raconte une histoire qui prend vie face à lui un beau jour, et donc lui découvre les personnages qu'il connaît assez bien, et donc c'est un joli petit film d'aventure pour les plus jeunes.
Je te connaissais pas si expert dans les films de Kev Adams, mais visiblement t'as bien bossé sa filmographie, bravo.
Oui, bravo. J'en ai au moins 3 en tête. On aura aussi Ce qui compte cette semaine à Argenton, Tom le chat à la recherche du doudou perdu, donc autre enquête, mais pour les plus jeunes, donc à partir de 4 ans, c'est le film du matin, je crois que ce sera vendredi à 10h. Super Mario Galaxy revient pour quelques séances après le succès exorbitant de ce tournoi Mario Kart qui a eu lieu vendredi dernier. Et enfin, Pompéi Soto Lo Novole, donc d'après l'exposition, en tout cas en lien avec l'exposition immersive, je ne sais pas si c'est les bons mots, mais qui s'appelle Argento Magus en résonance, qui a lieu, je crois, ce week-end, si je ne me trompe pas. Donc,
une balade sonore, tout à fait.
Oui, ouais. Tout à fait, et qui a l'air assez, au moins original, mais assez passionnant, immersive, et qui utilise des technologies dont j'ignore tout, mais qui reprend la position des gens. Tu te promènes avec un casque donc l'ancien théâtre gréco-romain, et donc on a une restitution à la fois de ce lieu quand il était encore utilisé, et aussi d'une visite par une des responsables du musée. Donc projet assez passionnant, et magnifique film de Gianfranco Rossi, qui est à mon sens est un des meilleurs réalisateurs de notre temps. On n'avait pas eu l'occasion de voir le film dans nos terres, et donc un de ces réalisateurs qui, enfin, je pense que c'est un des plus beaux photographes, notamment des images vraiment magnifiques à chaque fois. Donc elle a un noir et blanc autour de Pompéi, et comment est-ce que cette ville fonctionne, et comment cette région fonctionne. Donc c'est vraiment truffé d'activités. Enfin, ça grouille d'activités, ce film, et c'est assez passionnant à suivre. Et donc, un week-end avec un voyage dans le temps qui se profile à Argenton. Donc, ce sera samedi 25 à 14h30, cette projection de Pompéi. Voilà. Et j'en ai fini de cette programmation pour cette semaine, hein, et on découvrira la semaine prochaine le nouveau programme du Blanc, notamment, hein, de nombreuses nouveautés à venir. Et pour la fin, on avait passé du Lily Allen en référence à I Swear, film éminemment musical puisqu'il y a beaucoup de musique dedans, et donc et peut-être un peu mieux, on a Oasis, Stop Crying Your Heart, donc qui sera le générique de fin et de l'émission et du film. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Vous venez d'écouter la chronique
Cinéma, cinéma, chabadoudouda, cinéma, cinéma.
Dynamo fait son cinéma.